Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, chaque semaine, c'est toujours un énorme plaisir pour l'équipe du débat BBC Afrique, Africa Radio de vous retrouver. Bonjour et bienvenue Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, je m'associe à ces salutations appuyées pour nos auditrices et auditeurs. Je les remercie de la fidélité. Merci d'être là. Trois sujets au sommet de cette édition, Liliane. La RDC, le meurtre de George Floyd aux États-Unis et la situation au Burundi après le décès du président Pierre Nkurunziza. D'abord, la RDC avec vous.
Bataille autour de la succession de Corneille Nangaa, la tête de la commission électorale chargée de désigner le nouveau président de la CENI. La société civile dénonçait déjà fin octobre 2019 des pressions politiques. S'ajoutent maintenant celles des 8 confessions religieuses de la RDC. Cette semaine, elles se sont réunies pour choisir le président de l'instance. Échec des négociations dans une atmosphère plutôt tendue. Certains participants ont même accusé l'Église catholique d'avoir voulu imposer son candidat qu'elle a finalement retiré. Cette tension ne risque-t-elle pas de diviser les églises en RDC ? Analyse dans cette émission.
Au cœur de l'actualité également, Liliane, le meurtre de George Floyd aux États-Unis, le meurtre raciste de trop pour les Africains américains. Depuis plusieurs semaines, des manifestations de colère se multiplient à travers le monde pour dénoncer le racisme et les violences policières en réponse à la mort tragique de cet Africain américain tué par un policier blanc de Minneapolis.
Vous l'avez dit Francis, de New York à Londres en passant par Paris et Tokyo, « I can't breathe », »,« Je ne peux pas respirer » est repris comme un slogan durant les protestations. Il est aussi devenu un chant de colère, de refus du racisme et d'expression d'un ras-le-bol. Dans certains pays, des statues de certaines personnalités présentées comme des esclavagistes ou défenseurs du racisme ont été vandalisées. C'est le cas par exemple de la statue du négrier Edward Colston en Angleterre ou encore celle du roi belge Léopold II en Belgique. Alors y aura-t-il un après George Floyd ? Nous en débattrons.
Troisième et dernier sujet de cette édition, le Burundi après la disparition du président Pierre Nkurunziza. Quelles incidences sur la situation politique dans le pays ?
Pour l'instant, difficile à dire car c'est l'attente. Son successeur constitutionnel est le président de l'Assemblée nationale, mais un nouveau président élu le 20 mai dernier devrait prêter serment le 20 août prochain. Jeudi, le porte-parole du gouvernement a annoncé que le gouvernement et les deux vice-présidents ont saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle constate la vacance du pouvoir du président de la République. Que va-t-il se passer une fois la vacance du pouvoir actée par la dite Cour ? C'est la grande question. Francis, à vous pour le plateau.
Comme chaque semaine, Liliane, un grand témoin invité dans cette édition et un confrère invité également. Au téléphone depuis Kinshasa, notre grand témoin aujourd'hui, c'est l'abbé Donatien Chole, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Yaoundé ou Douala, je ne sais pas précisément, au Cameroun en tout cas, Jean-Bruno Tagne, journaliste, politique et écrivain, auteur de l'ouvrage « Accordé avec fraude » de Aïdjo Abia, « Comment sortir du cycle des élections contestées ». En tout cas, c'est votre dernier ouvrage en date. Jean-Bruno Tagne, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être avec nous. Voilà pour le plateau Liliane, premier sujet, la RD Congo.
Oui, à l'issue de 2 jours de discussion, la plateforme des confessions religieuses n'a pas réussi à trouver un consensus sur le choix d'un candidat sur les 3 shortlistés pour diriger la commission électorale. Le mandat des animateurs de l'institution ayant pris fin en juin 2019. Les négociations ont été difficiles, parfois houleuses, rapportent diverses sources locales. Le cardinal Fridolin Ambongo a été soupçonné même d'avoir tenté d'imposer son candidat aux autres confessions religieuses, ce que vous avez démenti, abbé Donatien Chole. Alors, reste plus que 2 candidats en lice. Que s'est-il passé depuis l'échec des discussions de lundi et mardi ? Est-ce qu'aujourd'hui, les discussions ont avancé, monsieur l'abbé Chole ?
Pas encore. La présidence de la plateforme a écrit officiellement au président de l'Assemblée nationale pour lui donner le compte rendu de ces discussions qui se sont clôturées sans consensus et lui rappeler que selon la charte de confession religieuse, c'est le président qui engage cette institution auprès des tiers. Cette lettre méritait bien d'être écrite parce que on apprenait qu'il y aurait eu un PV parallèle. Donc, et dans cette lettre, comme dans le communiqué, il y a une note d'espérance que dans les jours à venir, on puisse trouver une solution, ce qui n'est pas encore le cas. Nous l'espérons pour bientôt. Entre-temps, il y a les autres composantes de la société civile qui critiquent cet exercice dans la mesure où elles considèrent que ça doit être précédé par les réformes de la loi électorale attendue par la communauté nationale.
Et avant d'arriver à ce que pense la société civile aussi impliquée dans le choix de cette présidente, du président de la CENI, M. l'abbé Chollet, alors, en échouant ainsi, puisque il me semble que vous dites qu'il y a clairement un blocage, en échouant à vous entendre déjà entre confessions religieuses, est-ce que vous ne craignez pas de donner le mauvais exemple à la classe politique, souvent très vite accusée par les églises et notamment la CENCO, d'être incapable de se mettre d'accord, même sur l'essentiel?
Malheureusement, c'est la triste réalité. Ça ne nous honore pas, parce que si on regardait tous dans la même direction, qui est un choix qui va contribuer à redonner confiance au système électoral. Si le souci de tous était le bien-être du peuple congolais, pour le père spirituel, les problèmes ne devaient pas trop se poser. Donc, c'est gênant pour moi de le dire, mais nous restons les hommes, nous restons bien que hommes de Dieu, mais nous restons les hommes d'espérance.
Monsieur l'abbé Chollet, c'est vrai que c'est la constitution congolaise qui confère aux confessions religieuses cette prérogative de désigner le président de la commission électorale nationale indépendante. Mais on peut se demander si c'est le rôle des religieux de s'investir aussi pleinement dans les questions électorales et donc politiques. Est-ce que c'est une disposition, selon vous, temporaire? Est-ce que ça devrait rester une disposition temporaire? Ou pensez-vous qu'il faut l'inscrire dans le temps, ce qui peut apparaître comme une anomalie aux yeux de certains?
Bon, juste une précision avant de répondre. C'est la loi électorale et non la Constitution.
La loi électorale, pardonnez-moi.
Oui, et puis en plus, ce n'est pas que le candidat de confession religieuse est automatiquement président. Selon la loi, c'est parce que la société civile doit donner 3 personnes à la plénière. Et l'une des 3 personnes, il s'est fait que depuis toujours, c'est le candidat présenté par la confession religieuse qui fait office du président, ce qui n'est pas dans la loi. Alors, pour répondre à votre question, je constate comme vous que ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, parce que dans la plateforme de confession religieuse, en dehors de ces questions-là, il y a harmonie. On prie ensemble, on fait des œuvres de charité ensemble, mais quand il s'agit d'œuvrer ensemble pour des questions sociopolitiques, il y a une interférence politicienne qu'il ne faut pas cacher. Je crois que ça doit nous donner à réfléchir.
Mais justement, alors, c'est vrai que les tractations en cours entre les membres des confessions religieuses ressemblent beaucoup, étrangement, aux mêmes que l'on observe dans les cercles politiques, j'allais dire profanes, monsieur l'abbé. Est-ce que les autorités religieuses ne sont pas prises au piège de la politique classique? Quelle démarcation désormais entre le spirituel et le profane?
Bon, je crois que si on est arrivé à cette loi-là, c'est parce qu'on considérait que pour la confession religieuse, c'est la donne éthique, la donne morale qui a fait qu'on puisse se référer à nous. Donc là, je dois avouer qu'il y a un problème. Je dois avouer qu'il y a un problème, mais nous restons des hommes.
Donc, monsieur l'abbé, vous avouez que la caution morale que les acteurs politiques, c'est-à-dire qu'avant, on voyait en l'Église des personnalités neutres, indépendantes, capables d'apporter la caution morale nécessaire à la crédibilité de la CENI, vous admettez qu'aujourd'hui, ces acteurs politiques se sont peut-être trompés?
Non. C'est-à-dire, on n'est pas encore. Je dis que nous sommes des hommes d'espérance, mais le fait qu'on ait échoué jusque-là, en 2006, en 2011, de nous mettre d'accord pour un candidat, ça ne nous honore pas, voilà ce que j'ai dit.
Mais monsieur l'abbé, vous parlez, c'est vous qui venez de parler aussi d'interférences politiciennes, c'est-à-dire que oui. Ce ne sont pas uniquement des éléments, j'allais dire religieux, qui entrent dans la proposition des noms et la défense des candidats par l'une ou l'autre confession religieuse. Il y a des considérations politiciennes aujourd'hui qui font que le travail est difficile à faire pour vous.
C'est ma lecture, ça n'engage que moi.
Monsieur l'abbé, le fait d'associer les confessions religieuses, donc les autorités morales, à cet exercice, à la question électorale, est-ce que ce n'est pas, au fond, je dirais, la manifestation de cette rupture de confiance qui continue, qui perdure entre les acteurs politiques, je dirais même les citoyens congolais en général et les instances chargées d'organiser des élections dans ce pays?
Oui, ça c'est vrai. Mais malheureusement, on n'a pas encore arrivé vraiment à prouver le contraire.
Est-ce que vous voulez dire, M. l'abbé, que vous jetez l'éponge ou bien vous dites, vous espérez encore un ressaisissement, disons, des acteurs religieux pour que vous trouviez une solution?
J'ai dit tout à l'heure, nous sommes des hommes d'espérance. C'est une crise qui peut être résolue. Les uns les autres, nous pouvons tirer des conséquences de nos comportements et faire mieux dans l'avenir, pourquoi pas.
Vous pensez qu'il y aura un déclic?
C'est possible, je ne suis pas prophète dans ce sens-là, mais je n'exclus pas cette possibilité.
Est-ce que cet exercice donc confié aux confessions religieuses qui est un peu piégé, je le disais, par la politique politicienne, ne risque pas justement de nuire à l'harmonie souhaitée entre les différentes confessions religieuses?
Bon, je vous ai dit qu'en dehors de ces questions-là, il y a vraiment une harmonie, je dirais, presque parfaite.
Ah oui.
Il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. C'est quand il est question de
la politique,
de ce genre de choses, de politique, qu'il y a ces divisions entre guillemets.
Mais est-ce que cela ne vous invite pas finalement à lever le pied, monsieur l'abbé, à dire que peut-être, en fait, finalement, l'Église s'est trompée en s'impliquant autant dans la politique en RDC? Est-ce que vous n'allez pas en tirer les leçons et vous dire l'Église se retire désormais de la politique et s'occupe de ses paroisses?
L'Église ne fait pas la politique en ce qui concerne la conférence épiscopale, mais l'Église intervient en politique circonstanciellement pour défendre les intérêts de la population, parce que nous sommes convaincus que le bien-être du peuple congolais, qui demeure la principale préoccupation des pasteurs que sont des évêques, passe par la démocratie. Donc, en contribuant à la consolidation de la démocratie, on ne fait pas la politique, mais on prépare un terrain qui a comme objectif final le bien-être du peuple congolais. Laissez-moi finir.
Oui.
La CENCO s'est engagée, par exemple, au dialogue ou dans plusieurs plaidoyers sans faire la politique, et cela n'a pas tellement posé problème par rapport à la crédibilité, à l'unité de la CENCO.
Mais c'était des implications ponctuelles, monsieur l'abbé.
Exactement.
Vous dites que certaines autres confessions vous donnent l'impression de faire de la politique et pas vous, mais le reproche selon lequel...
Je ne l'ai pas dit.
Qu'est-ce que vous avez dit alors, monsieur l'abbé? Vous pouvez repréciser vos propos.
J'ai dit l'Église ne fait pas la politique, l'Église intervient. J'ai donné maintenant l'exemple de la CENCO qui intervient. Bon, je n'ai pas parlé des autres, je parlais de ce que je maîtrise. Tandis qu'ailleurs, nous savons qu'il y a des églises où vous avez des évêques qui sont sénateurs, qui sont engagés en politique, mais dans l'Église catholique, ça n'existe pas.
D'accord.
On va écouter peut-être Jean Bénotaille, non?
Oui, et puis je veux bien revenir sur cet aspect, Francis, avec notre invité. Jean-Bruno?
Oui, Liliane.
Oui, sur cette... Vous avez suivi les explications de l'abbé Donatien Chollet qui regrettait que les huit confessions religieuses, les principales, n'aient pas pu réussir à désigner un candidat unique. C'est le blocage. Comment analysez-vous cet échec?
Pour le moment. Oui, alors pour le moment, effectivement, on observe cet échec, mais il faut espérer hein, que ce n'est pas définitif, cet échec, parce que l'Église a effectivement un rôle moral à jouer sur la scène politique. Vous parliez tout à l'heure de l'implication de l'Église dans la politique, même si en tant qu'acteur politique direct, on ne voit pas beaucoup les Églises, et c'est tant mieux, mais comme observateur, c'est très très important. Et on a l'impression qu'il y a une longue tradition de l'observation ou alors de la surveillance de la politique en République démocratique du Congo. Il vous souvient les années 90 avec la conférence nationale qui était présidée par l'Église catholique. On a vu l'observation même des élections en République démocratique
du Congo. Mais Jean-Bruno, l'Église n'intervient que quand il y a des situations de crise, vous le savez très bien. Donc c'est un symptôme quand même en soi.
Oui, et cela traduit quelque chose de très très sérieux dans les pays africains, c'est-à-dire la crise de confiance qui existe entre les citoyens et leurs institutions. Je peux vous dire que dans un pays comme le Cameroun, les citoyens en sont à regretter que les leaders religieux ne s'impliquent pas beaucoup plus sur la scène politique à travers une observation qui soit indépendante, libre, mais sans forcément être des acteurs politiques, c'est-à-dire engagés en politique, mais qu'ils observent la politique pour apporter ce côté moral qui est censé caractériser
désintéressé. L'Église.
Voilà, désintéressé également, parce que les batailles politiciennes, à un moment donné, on se dit, les hommes de Dieu sont au-dessus de la mêlée et peuvent apporter une lecture qui soit beaucoup plus indépendante et qui aille dans le sens des intérêts des citoyens.
Merci Jean-Bruno. Monsieur l'abbé, je reviens avec vous avec ces deux éléments. Parlant de la politisation supposée de l'Église, pas seulement catholique, je le précise, certains acteurs politiques du précédent régime avaient insinué et affirmé, pour certains d'ailleurs, nous en avons entendu, des accointances de la CENCO avec certaines puissances et accusaient même la CENCO de rouler pour certaines puissances. Deuxième élément, nous avons récemment reçu un homme politique béninois ici qui estimait que l'Église devait rester dans son rôle d'Église et ne pas faire de la politique. Il était un peu dubitatif de l'implication de l'Église dans l'immixtion des affaires, l'interférence des religieux dans la sphère politique. Quel est votre avis sur ce point ?
Eh bien, je parle d'expérience, vous avez dit vrai, mais en ce qui concerne notre expérience, la conférence épiscopale, la CENCO est restée constante, mais chaque fois que sa prise de position rejoint un intérêt politique d'un camp, l'autre camp vous accuse d'être avec. Et ce qui est beau, c'est que dans ce parcours, tantôt on a accusé l'Église d'être avec la majorité, tantôt avec le pouvoir, tantôt avec les partenaires, seront que les intérêts de ceux qui accusent ne se retrouvaient pas dans la position de la CENCO qui ne tenait compte que du bien-être du peuple congolais.
Donc vous ne roulez pour personne, vous roulez pour le peuple congolais ? Parce que j'ai même entendu certains Congolais dire que l'Église catholique, affirment clairement que l'Église catholique semble avoir pris goût à ce jeu, c'est-à-dire en s'impliquant dans sur la scène politique.
Mais tant que les politiques ne tiendront compte que de leurs intérêts et non de la population, l'Église sera toujours là pour défendre le peuple, la population. Vous ne voyez pas l'Église entrer dans les querelles politiciennes. Par exemple, quand il était question d'utiliser la machine à voter ou non, l'Église n'a pas pris position. Ce sont des choses politiciennes. Mais pour des questions de fond où l'avenir de la population est engagé, comme pasteur, on ne peut pas se taire.
Merci beaucoup. Monsieur l'abbé Donatien Tcholé, Francis, je pense qu'il est temps de marquer une courte pause, comme l'exige le conducteur de notre émission. Et on vous retrouve tout à l'heure, monsieur l'abbé et Jean-Bruno Tagné.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
avec notre grand témoin invité depuis Kinshasa au téléphone, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et notre confrère invité depuis Yaoundé au téléphone, Jean-Bruno Taille, journaliste politique et écrivain, auteur de l'ouvrage « Accordé avec fraude » de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. On va donc continuer sur le sujet RDC, Liliane, avec l'abbé Donatien Cholet. D'abord, avant de poursuivre le débat sur l'actualité en tant que telle, monsieur l'abbé, on se souvient des réserves émises par la CENCO au lendemain de l'élection présidentielle de décembre 2019. Est-ce que désormais la CENCO a pris définitivement acte du résultat de cette élection et de la situation actuelle que certains ont qualifié d'alternance au sommet de l'État?
Ben, ça, c'était dit, c'est fait. Donc, on avait distingué le plan de fait, le plan, disons, éthique, puis le plan légal. On a pris acte, nous reconnaissons les institutions issues de ces élections, quand bien même nous les avons contestées pour des raisons pratiques.
Alors, docteur, monsieur l'abbé, je souhaite que vous vous prononciez sur l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'élection devait avoir lieu vendredi au moment où nous enregistrons l'émission, mais il semble que les forces de l'ordre ou la police sont intervenues et l'élection n'a pas pu se tenir. Quelle appréciation vous portez sur cette actualité politique au sein de la famille UDPS?
Ben, je ne saurais vraiment pas dire des choses avec maîtrise parce que je ne maîtrise pas la loi, mais j'observe simplement que c'est anormal, c'est même ridicule qu'on soit arrivé à ce niveau-là pour des institutions qui sont au sommet de l'État.
Et sur le cas procès Vital Kamerhe, un commentaire?
Bon, je n'ai pas de commentaires à faire, c'est la justice, je ne suis ni témoin, ni accusateur. Tout ce que je peux dire, c'est que nous voulons une justice équitable, une vraie justice, qui ne soit pas une pêche à la ligne. Et que
Vous pensez que le procès en cours, c'est le cas?
Pardon?
Vous pensez que le procès en cours du directeur de cabinet du président Tshisekedi, c'est le cas?
Non, je ne l'ai pas dit, c'est la suite qui nous le dira. La suite qui nous le dira, donc que la justice fasse son travail. Si la justice est dans le bon, il faut qu'elle continue dans ce sens-là pour tout le monde.
Alors, comment faire le tour de l'actualité avec vous, monsieur l'abbé Donatien Cholet? Je voulais votre regard sur la pandémie en cours en RDC, en cours dans le monde aujourd'hui, et la gestion de cette pandémie dans votre pays. Je voulais surtout que vous me disiez ce que vous pensez de l'appui apporté récemment par l'Union européenne. Je vous pose la question parce que le cardinal Fridolin Ambongo, prélat catholique, membre de la CENCO, a déploré le fait que la RDC soit toujours dépendante de l'aide extérieure. Et à l'aune de cette pandémie, il a dit encore plus fortement en disant qu'il espère que la RDC sorte de cette situation pour qu'on, je le cite, pour qu'on ne continue pas à venir à notre aide indéfiniment. Que pensez-vous aujourd'hui de la capacité de pouvoir central de l'État congolais à gérer cette pandémie avec ses moyens, avec également, je dirais, ses ressources? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'État congolais est à la hauteur de la gestion de cette crise?
Bon, je crois que j'observe une volonté politique de faire face à cela dans les conditions qui sont les nôtres. Il faut être réaliste, il ne faut pas attendre les miracles. Selon moi, par rapport à la situation dans le contexte actuel, c'est difficile de s'en sortir sans appui extérieur. L'idéal serait, comme a dit le cardinal, que nous suffisions à nous-mêmes. Mais au stade actuel, je ne vois pas comment, malgré la bonne volonté politique affichée, sans l'aide des partenaires, nous pouvons vraiment répondre efficacement à cette crise.
Est-ce que vous pensez que l'État est plus présent aujourd'hui qu'il y a quelques mois, parce qu'on déplorait il y a quelques mois ou quelques années l'absence d'État à mains endroits dans votre pays? Dans le cadre de cette crise sanitaire, est-ce qu'on assiste, je dirais, au retour de l'État avec sa capacité de remplir pleinement ses prérogatives, en ce qui concerne en tout cas cette crise, la santé publique?
Bon, je me limite à dire que je vois la volonté politique en commençant par le chef de l'État, mais il y a aussi beaucoup de limites, de défaillances ici et là qui ne sont pas dues au manque de volonté, mais que j'attribue au manque de moyens. Mmh.
Et Monsieur l'abbé, que pensez-vous, enfin, ou plutôt, comment appréciez-vous aujourd'hui la cohabitation FCC-CASH et comment envisagez-vous la suite et même la fin de cette cohabitation politique?
Eh bien, je ne vais pas. Ce n'est pas à nous d'évaluer la coalition à l'interne. Non, pour nous, les évêques. Leur dernier message a bien rendu ça, coalition pour quel but? Donc ce qui nous intéresse, c'est une coalition qui travaille pour servir la population. Mais on observe régulièrement les tensions qui ont comme conséquence que le peuple ne soit pas servi comme il faut.
Est-ce que vous pensez que l'ancien régime est encore trop présent aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques? Est-ce qu'on a réellement tourné la page de l'ancien régime? Est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui le changement espéré par les Congolais à la veille de la présidentielle de 2019?
Bon, par rapport à mon rôle de porte-parole de la CENCO, je ne m'irai pas faire à ce stade, à ce jour-ci, une analyse pour ne pas les précéder. Au moment opportun, vous aurez la réponse à cela.
Mmh. Autrement, comment, en quelques mots, appréciez-vous la gestion du pays par le président Tshisekedi? Est-il sur la bonne voie?
C'est la même réponse. Je préfère réagir quand les évêques vont se prononcer là-dessus.
On a un début de réponse, en tout cas, même si vous n'apportez pas une pleine réponse, M. l'abbé. Merci, en tout cas, de jouer le jeu des questions et réponses.
Francis, je pense qu'il est temps de passer au second sujet, toujours avec notre invité.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et notre confrère invité depuis le Cameroun, Jean-Bruno Tagne, journaliste politique et écrivain, parlant à présent de l'affaire George Floyd, hein, une indignation universelle. C'est vrai que le meurtre de George Floyd, un Africain-Américain de 46 ans, est devenu le drame raciste de trop aux États-Unis. En tout cas, cette affaire a déclenché la plus vaste mobilisation inédite antiraciste sur tous les continents. Le 25 mai 2020, il faut le rappeler, peu avant 20h, George Perry Floyd, désigné à la police pour usage présumé d'un faux billet de $20, a trouvé la mort étouffé par la pression exercée sur son cou par le genou de Derek Chauvin, un policier visé par plusieurs plaintes depuis plusieurs années pour diverses formes de violence dans l'exercice de son métier. Alors si les violences policières à caractère raciste sont régulièrement signalées aux États-Unis, comment expliquer l'émotion planétaire suscitée par cette affaire? Une émotion qui, pour la première fois, transcende d'ailleurs nettement les barrières raciales et ethniques. Et quelle est la partition de l'Afrique dans ce concert mondial d'indignation et de condamnation? Ce sont les questions, évidemment, qui sont au cœur de cette actualité. Première question pour vous, à vous, monsieur l'abbé Donatien Cholet. Et c'est vrai qu'à la source de cette indignation mondiale, il y a surtout les images, hein, cette vidéo qui montre l'interpellation et la mort de George Floyd sous le genou du policier Derek Chauvin. Est-ce que ces images ont été le principal déclencheur de cette émotion planétaire? Parce que les violences policières racistes ne sont pas une nouveauté aux États-Unis.
Oui, c'est quelque chose qui a eu un effet au niveau planétaire. C'est vraiment du pur racisme. Et voilà, on a eu des réactions, par exemple en Belgique, où on a renversé la statue de Léopold, je crois, des réactions à gauche, à droite. Donc c'est quelque chose d'inacceptable de toutes les façons.
Francis? Allô, Francis, vous êtes là?
Oui, je pensais que vous alliez poser une question.
Voilà. Monsieur l'abbé, on n'a pas beaucoup senti une forte mobilisation au niveau du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine, certes, a publié un communiqué dénonçant le racisme. Je parle de Moussa Faki Mahamat. Mais au niveau même des peuples du continent, l'Afrique a été quasiment absente de la mobilisation mondiale. Est-ce que vous comprenez cela et comment l'expliquer?
J'ai déploré cette attitude en ce qui concerne le Congo. J'explique ça par les grandes actualités, par exemple le procès Kamere, c'est tout le pays qui est là-dessus. Tout ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps, ça fait qu'on aussi...
Les gens ont la tête ailleurs.
Voilà.
Ils ont leur propre chat à fouetter, si on peut, si on peut permettre l'expression.
Voilà, je dirais ça.
Oui, mais les époques ont changé quand même. On dirait qu'on a changé d'époque, Monsieur Labbé, parce que on se souvient que dans les années 60, hein, quand les Africains-Américains, on appelait à l'époque les Afro-Américains, se battaient pour leurs droits civiques, plusieurs mouvements en Afrique répondaient en écho à ce mouvement des Noirs américains. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus cette connexion aussi sensible entre des militants africains sur le continent et ce qui se passe aux États-Unis pour ces Africains-Américains ?
Oui, c'est quelque chose que je déplore. Mais là, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose à corriger, je dirais. Même du point de vue intellectuel, c'est cette dynamique malade de réflexion panafricaine en train de diminuer. Ça, c'est très mauvais. Alors que maintenant, on n'a plus de moyens, plus de facilité avec les réseaux sociaux, les moyens de communication,
d'être informé.
De s'informer, il y a un recul, et c'est pas normal.
Jean-Bruno, est-ce que, en tant qu'Africain, vous vous êtes senti un peu mal à l'aise face à cette discrétion au niveau des politiciens africains et même des peuples africains face à cette tragédie qui a fait, qui a ému quasiment toute la planète?
Oui, effectivement, il y a eu cette indignation planétaire, mais en Afrique, on s'est bien rendu compte que l'indignation était un peu timide, un peu molle. Il y a juste dans quelques pays africains où certains leaders de la société civile des jeunes ont organisé des manifestations. Vous avez parlé de la réaction du président de la Commission de l'Union africaine et puis le président ghanéen. Et après,
Nana Akufo-Addo, juste préciser, ajouter, oui, que le président ghanéen s'est démarqué. Hein. Il y a une cérémonie officielle. Il a condamné publiquement le meurtre. Et voilà, une cérémonie organisée par la ministre du tourisme du Ghana.
Tout à fait. Je pense que cela tient à plusieurs raisons. Il y a d'abord la personnalité d'un certain nombre de chefs d'État. N'ayons pas peur de le dire. Il y a un peu de frilosité de leur part. Vous savez, Donald Trump, depuis qu'il arrive au pouvoir, s'est montré assez imprévisible. Il est parfois brutal. Et donc, on peut subodorer que les chefs d'État africains décident d'évoluer un peu sur du velours avec quelqu'un
peur qui est... Peur de représailles de Washington. Voilà, de Donald Trump.
Absolument, absolument, et qui peut tout incendier à travers un tweet. L'autre chose également, c'est que certains chefs d'État, regardant eux-mêmes la situation des droits de l'homme dans leur propre pays, se sont sentis un peu mal à l'aise, on peut le penser. Parce que ce qui est arrivé à George Floyd est quelque chose d'absolument inacceptable et tout, mais il faut dire que sur le continent, on voit des actes de brutalité policière qui sont devenus le lot quotidien des citoyens. Les droits de l'homme ne sont pas respectés, la justice fonctionne un peu n'importe comment. Il y a une brutalité policière qui est extraordinaire dans le continent. Et je pense que c'est à ce niveau que la société civile aurait dû profiter de l'indignation mondiale du cas George Floyd pour poser les problèmes de la brutalité policière dans les pays africains.
Et pourquoi n'a-t-elle pas fait cela? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait, d'après vous, cette société civile?
Précisément parce qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes de liberté publique dans les pays africains. Si je prends le cas du Cameroun, que je connais un peu mieux, il est difficile de pouvoir organiser une manifestation pour dénoncer quoi que ce soit dans ce pays. Il y a quelques jours, des journalistes qui voulaient dénoncer la mort en détention d'un de leurs confrères ont été rudoyés par la police. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui empêchent les Africains d'exprimer le fond de leur pensée. Mais je peux vous dire que dans l'opinion autour de moi, les gens sont choqués. Ce qui s'est passé aux États-Unis a provoqué une onde de choc extraordinaire dans les continents africains. Mais c'est un tournant qui a été raté pour poser enfin le problème de la brutalité policière qui est quand même spectaculaire et presque décomplexée dans certains pays africains.
Justement, c'est important ce que vous dites, Jean Bonnetta. Alors, je me tourne vers l'abbé de la Saint-Cholet. C'est vrai, l'abbé de la Saint-Cholet, que cet événement a amené certains Africains à faire le parallèle entre ce que vivent certains Africains américains aux États-Unis et ce que eux-mêmes Africains vivent sur leur propre continent, les violences subies par les Africains et des violences commises par les Africains contre les Africains. Quelle réflexion vous inspire, je dirais, ce parallèle que font les Africains aujourd'hui et qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas une forte mobilisation et que finalement cet événement qui s'est passé aux États-Unis a renvoyé les Africains, certains Africains en tout cas, à leur propre histoire, histoire immédiate, hein, aux violences qu'ils subissent eux-mêmes quotidiennement de la part de certaines autorités dans leur pays.
Oui, c'est le cas, comme vous avez suivi en Belgique, là... On a renversé, donc on a vite fait un parallélisme avec la colonisation. Et là, il y a quand même un dénominateur commun, c'est le racisme, la déconsidération de l'homme noir. Et c'est tout à fait normal que, vous savez, même si vous observez dans le deuil, il y a des gens qui pleurent, non pas le mort, mais le leur qui est déjà mort avant. Et voilà.
Voilà. Jean-Bruno Pantagne, notre invité, l'abbé Chollet, parlait tout à l'heure de la statue de Léopold II, le roi des Belges, qui a été déboulonné, vandalisé en Belgique. Il y en a eu d'autres aux États-Unis ou en Angleterre, je le disais en début d'émission. Vous dites-vous qu'il était temps que cela arrive ou pensez-vous que cela intervient trop tard ?
Non, il n'est jamais trop tard pour revenir sur un certain nombre de fautes, y compris historiques. Il y a beaucoup de monuments d'anciens colons qui doivent être déboulonnés sur le continent africain. C'est bien que cela ait commencé en Belgique, mais sur le continent africain, il y a encore des statues d'anciens colons qui doivent être déboulonnés. Si je prends le cas du Cameroun, il y a un activiste très connu ici qui est allé plusieurs fois en prison parce qu'il a, il s'est donné pour mission de déboulonner les statues d'un certain nombre de colons français.
Dont le général Leclerc à Douala.
Voilà, du général Leclerc à Douala a été déboulonné par M. André Blaise Essamba. Tout cela tient effectivement à la connaissance de l'histoire de notre continent.
Avant de poursuivre, Jean-Bruno, oui. Sauf que là, vous venez de dire qu'il a été emprisonné, il n'est pas soutenu et il est plutôt, poursuivi par les autorités judiciaires et politiques camerounaises.
Effectivement, et c'est pour cela qu'il faut une décolonisation des mentalités, surtout de ceux qui dirigent ce pays, parce qu'il est totalement inacceptable de voir dans les rues de Yaoundé et de Douala, des boulevards Leclerc,
De Gaulle, etc.
Quand vous mettez votre GPS dans les rues de Douala, c'est impressionnant, vous avez l'impression d'être dans les rues de Paris. Il y a quelque chose qui doit absolument changer. Il faudrait que les Africains s'approprient leur propre histoire et que nos propres héros soient valorisés. On ne peut pas célébrer les bourreaux et malheureusement mépriser ceux qui ont été nos héros. Mmh. Où se trouve une statue, par exemple, de l'un des pères de l'indépendance du Cameroun véritable, qu'on appelle Oumniové, par exemple. Il y a plein d'autres personnages de l'histoire du Cameroun qui malheureusement ne sont pas valorisés. Au lieu de quoi, c'est plutôt des statues des anciens colonisateurs qu'on voit fleurir ça et là. Je pense qu'il y a...
Mais ce sont des décisions politiques. Est-ce que vous pensez ces décisions politiques ne sont-elles pas en rupture avec ce que pense le peuple, ce que pensent les Camerounais, la majorité.
La majorité des Camerounais pense aujourd'hui qu'il va falloir valoriser nos personnalités, nos personnages historiques. Sauf que c'est une décision qui, en fin de compte, doit être prise par les politiques. Or, les politiques ont des intérêts. Il faut dire, je l'ai dit tout à l'heure, il faut décoloniser nos dirigeants qui ont encore une mentalité, malheureusement, de coloniser et qui continuent de préserver les intérêts de l'ancienne métropole plutôt que les intérêts de leur propre continent. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Au niveau de la population, les gens pense qu'il est temps qu'on s'approprie notre propre histoire et qu'on valorise nos propres héros.
Oui, une question encore à l'abbé de la Seine-Cholet sur cette actualité. Monsieur l'abbé, alors on l'a dit, le meurtre de ce Africain-américain George Floyd a déclenché un mouvement mondial. Ce sont donc des gens de toutes les couleurs qui manifestent aujourd'hui dans le monde contre le racisme, ce qui est un fait nouveau. Hein. Ce sont des gens de toutes les couleurs qui déboulonnent certaines statues. Quelle réflexion vous inspire le fait qu'aujourd'hui, ce mouvement mondial contre le racisme transcende les barrières ethniques et raciales ?
Ben, je crois que c'est une des conséquences de la globalisation du monde. Le monde devient en fait un village planétaire, et mais voyons les choses aussi positivement, parce que là, c'est aussi signe d'une prise de conscience du caractère sacré de l'être humain. Et là, c'est positif.
Et vous pensez qu'il y aura un après George Floyd? C'était ma question de départ, M. Labbé. Est-ce que quelque chose va changer?
Certainement. Je crois que les uns les autres qui ont encore cette tendance de racisme vont réfléchir deux fois avant de poser de tels actes.
Merci. Francis, oui. Je pense le prochain sujet.
Sans transition, bien sûr.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec transition musicale.
Oui, Abdou est allé plus vite que nous. Abdou qui assure la réalisation. Francis, dont on va parler du Burundi. On attend la décision de la Cour constitutionnelle saisie jeudi par le gouvernement et les deux vice-présidents à l'issue du Conseil des ministres présidé par le premier vice-président Gaston Simbiwo pour constater la vacance du pouvoir. La mort du président Pierre Nkurunziza a été annoncée mardi à 55 ans. Il est mort officiellement des suites de crise cardiaque. Après ce constat, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, va-t-il prêter serment comme le prévoit la Constitution ou alors le président élu le 20 mai dernier, Evariste Ndayishimiye, et qui devait être investi le 20 août prochain, va-t-il prendre fonction plus tôt que prévu? J'ai joint mardi l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye qui se dit plutôt confiant quant à la transition.
D'abord, c'est une triste nouvelle et c'est une nouvelle qui nous surprend dans la mesure où nous ne connaissions pas notre président en mauvaise santé et nous le savions assez solide et sportif, d'ailleurs prêt à introniser son successeur.
La Constitution prévoit que l'intérim soit assuré par le président du Parlement. Vous pensez que cette transition va se passer dans de meilleures conditions?
Bon, à moins vraiment d'une surprise, je crois qu'il restait seulement 2 mois pour que le nouveau président soit intronisé. Et les élections législatives ont déjà eu lieu. Je considère donc qu'à ce niveau, tous les instruments de la République sont là pour pouvoir suppléer à son décès.
L'ancien président burundais Domitien Ndayizeye sur BBC Afrique. Monsieur l'abbé Ntchole, quelle image vous gardez du président Nkurunziza et est-ce que vous êtes optimiste, sur l'après Nkurunziza ou craignez-vous une crise politique majeure qui pourrait peut-être replonger le Burundi dans l'instabilité et menacer même la région des Grands Lacs?
Bon, je dois avouer que je ne suis pas de près la politique burundaise, mais le président, le fait président Nkurunziza était à un moment donné célèbre, mais il a surpris quand même le monde avec sa décision de ne pas se représenter au moment où tout le monde croyait qu'il allait s'éterniser au pouvoir. Dommage que il n'a pas lui-même goûté à ces changements. Je veux rester optimiste. Je crois que le peuple burundais a intérêt à ce que les choses se passent calmement pour pouvoir décoller.
Jean-Bruno Taille, alors, vous avez certainement suivi cette actualité. Il y a eu des rumeurs d'abord qui ont précédé l'annonce du décès de Pierre Nkurunziza. Comment vous expliquez toutes ces précautions qui ont été prises par les membres du régime pour annoncer la mort du dirigeant burundais? Que nous dit la gestion assez peu transparente de cette situation sur la nature du régime burundais, le même régime d'ailleurs qui est toujours en place?
Alors c'est ça un peu le paradoxe dans les pays africains, c'est-à-dire chaque fois quand un président décède en fonction, il y a toujours ce type de précautions-là. D'abord pour éviter une panique générale, parce qu'on a souvent vu à la mort d'un président l'armée prendre le pouvoir par la force. Bref, je pense qu'il y a eu de la part des autorités burundaises une volonté de ne pas entraîner une certaine panique, surtout que l'alternance n'était pas effective. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un gros problème de droit qui se pose aujourd'hui au Burundi, c'est de savoir qui est-ce qu'il va diriger le pays, celui qui a été élu il y a quelques temps ou alors le président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim, parce qu'il y a un problème de droit qui se pose à partir de quand.
En principe, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait prendre donc l'intérim jusqu'à l'investiture du nouveau président élu, sauf que le président de l'Assemblée nationale paraît-il malade aussi.
Oui, et sauf que le président en fonction est mort avant que l'autre ne prenne ses fonctions. Et donc, il y a la question de droit qui va se poser aujourd'hui au niveau du Conseil constitutionnel, est de savoir à partir de quand est-on président de la République. Quand on a été proclamé vainqueur à une élection présidentielle ou alors au moment où on prête serment. Mmh. Si c'est au moment où on prête serment, il est évident que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre le pouvoir aujourd'hui, assurer l'intérim et organiser de nouvelles élections comme l'y autorise la Constitution. Et si c'est à partir du moment où on a été proclamé élu à l'élection présidentielle, cela signifie que le président élu il n'y a pas longtemps doit être investi dans ses fonctions. Mmh. Donc les prochains jours s'annoncent quand même assez tendus au Burundi, en espérant simplement qu'ils vont pouvoir régler ces problèmes en préservant les intérêts de la population burundaise.
Une question quand même... Voilà. Pardon, Liliane.
Non, allez-y, Francis.
Jean-Benoît, je voulais juste une réflexion sur, je dirais, un aspect particulier du régime de Pierre Nkurunziza. Certains Burundais prêtaient à Pierre Nkurunziza des pouvoirs exceptionnels, voire surnaturels. Donc c'est toute une légende qui disparaît avec cet homme qu'il incarnait. Quels pourraient être, selon vous, les effets, y compris psychologiques, au sein de la population de cette disparition?
Oui, parce que pendant longtemps, il a régné quand même 15 ans au pouvoir, et c'est quelqu'un qui ne cachait pas effectivement son côté très très spirituel, très religieux, avec parfois des croyances dans le mysticisme, et aujourd'hui il est décédé à 55 ans. Je pense que évidemment, ça crée un choc psychologique au niveau de la population qui se dit, mais finalement, cet homme, il était mortel. Mmh. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez compliqué pour la population, qu'il soit mort de manière aussi brusque au moment même où on pensait qu'il devait prendre une retraite. Et surtout, un président africain qui meurt à 55 ans, c'est assez rare quand même.
Oui. Et Francis parlait tout à l'heure, vous le disiez, Francis, que le président de l'Assemblée nationale Pascal Ngabenda semble-t-il malade, mais il y a l'opposant Agathon Rwasa qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Et normalement, c'est donc lui, si le président de l'Assemblée nationale est malade, opposant. Voilà, qui devrait prendre le pouvoir. Mais en tout cas, on attend de voir ce qui va se passer après que la Cour constitutionnelle ait constaté la vacance du pouvoir. Dernière question, en quelques mots, Monsieur l'abbé Donatien Cholet. On connaissait les relations plutôt difficiles entre le Burundi et certains de ses voisins, notamment le Rwanda. Est-ce que vous pensez que avec le président qui arrive, qu'il soit le président par intérim, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale ou le président élu, Évariste Ndayishimiye, est-ce que vous pensez que cela peut peut-être aider à consolider la paix dans une région des Grands Lacs très souvent troublée?
Bon, je ne connais pas la personnalité de nouveau, mais généralement, dans une situation de tension, il y a aussi de l'humain, il y a aussi du caractère personnel qui interfère. Alors, avec le nouveau venu, nous pouvons augurer qu'ils auront d'autres sentiments, étant donné qu'ils n'étaient pas plongés dans les réalités de façon près comme leurs prédécesseurs.
Merci, M. l'abbé. Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs sur notre page Facebook. Message recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. RDC Moisan Félix estime qu'il faut à la tête de la CENI une personne qui ne soit redevable à aucun camp politique et qui fasse de la refondation de l'institution son cheval de bataille. De son côté, Abdoulaye Silama Kondé pense que les religieux ne doivent pas se mêler de la politique. Ils doivent plutôt garder une position d'impartialité afin d'être des conseillers ou des médiateurs. Silus Nabegué lui demande à notre invité s'il faudra désormais considérer l'Église catholique en RDC comme un parti politique. Décès de George Floyd, Ben Le Sac déplore le racisme dont est victime les Afro-Américains et se demande à quoi sert la justice en de pareilles circonstances. Burundi, Memphis Kiti estime que la disparition de Pierre Nkurunziza devrait donner une bonne marge de manœuvre à son successeur dans sa gestion du pouvoir, à condition que la coalition militaire proche du pouvoir le lui permette. Merci à Aubin Alafamin pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat-bbc-africa-africa-radio et sur Twitter à @débat-bbc-africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci, bon week-end, Didier Ladislas.
Monsieur l'abbé, une conclusion générale, peut-être en répondant à la question sur l'Église catholique est-elle devenue un parti politique ? La question d'un auditeur.
Ok, eh bien, certainement pas. L'objectif d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et gérer. Or, l'Église catholique, dans sa discipline, interdit même aux pasteurs de poser la candidature, même au niveau de la députation. Donc, jamais vous ne verrez un évêque, député ou ministre, encore moins président de la République. L'Église catholique intervient en politique quand les politiques ignore que la place centrale, c'est le bien-être du peuple congolais. Mais il ne peut pas faire la politique politicienne.
Monsieur Labbé, est-ce que vous rêvez d'un jour, est-ce que vous avez l'espérance d'un jour où l'Église catholique en RDC ne sera plus appelée à résoudre des crises, à jouer les médiateurs dans des circonstances politiques compliquées?
Je le rêve, mais pas pour demain, parce qu'il faut être... Il y a déjà un pas, un petit pas qui est en train d'être fait, mais en fait, c'est l'idéal. L'idéal, et quand ça arrivera, vous allez voir, il y a des moments où, même maintenant, d'ailleurs, il y a des moments où l'Église catholique est silencieuse, il observe, quand il intervient, ça signifie qu'il y a un problème.
Donc vous rêvez des jours où il y aura de moins en moins de problèmes.
En tout cas, c'est ma prière.
C'est votre prière. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Vous avez été notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci également à notre confrère Jean-Bruno Tagne, journaliste, politique et écrivain. Et votre dernier ouvrage en date a pour titre « Accordé avec fraude » de Aïdjo Abia. Comment sortir du cycle des élections contestées. L'émission a été réalisée par, à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition. Et je vous précise, Liliane, que j'ai co-présenté cette émission avec vous depuis le studio 1 d'Africa Radio à Paris. Donc, c'est le retour en studio désormais.
Ce n'est plus émission en mode confiné, Francis Lalcaud.
Voilà,
Lalcaud,
c'est le retour depuis.
Ravi de l'apprendre.
Après trois mois de confinement, pratiquement.
Bon retour, Francis.
Merci à
la maison de la radio.
Oui.
À la maison. Voilà.
À la maison
à très bientôt.
Bon week-end.
Au revoir.